Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Christophe Pélissier, entraîneur de l'AJ Auxerre. Avec lui, nous avons évoqué son quotidien, ses différentes expériences comme entraîneur dans l'USNAC et Amiens, le dénominateur commun pour une montée de division, lui le grand spécialiste, ou encore l'évolution de son projet de jeu à travers l'évolution du football. Nous sommes également revenus sur la saison de l'AJA en Ligue 2, l'adhésion du public, les performances de Paul Joly et Joubal, et bien d'autres choses encore. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Christophe Pélissier. Bonjour Christophe Pélissier et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation et dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué ? J'aime bien dire que c'est votre Madeleine de Proust, ça peut être enfant, adolescent, adulte, joueur, joueur amateur, joueur enfant, entraîneur, maintenant amateur, entraîneur professionnel. Et les possibilités, téléspectateurs même, pourquoi pas, les possibilités sont extrêmement nombreuses.
Moi, il y a deux matchs qui m'ont marqué. Le premier, j'étais tout jeune puisque... C'était en 1976, c'est que j'ai assisté à la finale de Saint-Étienne contre le Bayern de Munich à Glasgow. C'était le 12 mai 76, je me rappelle parce que c'était l'anniversaire à ma mère le 12 mai. Donc, je sais très bien où j'étais ce jour-là, le jour de ses 40 ans. Donc, voilà, j'étais à Glasgow pour malheureusement voir la défaite de Saint-Étienne contre le Bayern de Munich. Et le deuxième match, c'est obligatoirement notre montée avec Amiens en Ligue 1 où on obtient notre montée à la 96e minute, un club qui n'était jamais arrivé à ce niveau après 108 ans d'existence.
C'est deux souvenirs très forts, l'un évidemment avant votre carrière de joueur-entraîneur, l'autre avec votre carrière d'entraîneur. On va y revenir parce que les montées, ça vous connaît plutôt bien. Dans toutes les divisions d'ailleurs, à tous les échelons du football français. J'aime bien commencer avec les entraîneurs par une question qui me plaît depuis longtemps parce que ça oppose un peu deux visions du football, une vision un peu ancienne, une vision plus récente, plus moderne, on va dire. Encore que ça peut d'ailleurs se discuter avec pas mal de nuances, finalement. On parle de l'évolution du football, etc. Mais il y a une question qui demeure un peu chez les entraîneurs et qu'on entend souvent chez ceux qui gagnent, notamment, où on dit souvent, quand l'entraîneur gagne, on peut rien dire finalement parce qu'il a gagné. C'est le but ultime de tout entraîneur. Tout entraîneur est là pour être compétitif et pour gagner. Et donc la question est-ce qu'un entraîneur qui gagne a toujours raison ?
Souvent oui, parce que on retient souvent que ça. On a beau dire que ouais, on a bien joué, on a fait ici de très bien, ça très bien, mais si au fil des semaines les résultats ne suivent pas, malheureusement, dans notre métier, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, oui, un entraîneur professionnel se doit de gagner.
Olivier Dalloglio, qui avait été invité de ce podcast, disait, on en a besoin pour exister. C'est-à-dire que dans
Oui.
notre métier, pour exister, on a besoin de gagner, tout simplement.
Bien sûr, ce que je disais, on peut expliquer tout ce qu'on veut, on peut avoir un projet de jeu séduisant, mais si à la fin, ça ne gagne pas, c'est jamais valorisé. Alors que, voilà, comme je dis, on est un entraîneur professionnel, on est là pour préparer l'équipe à performer. Alors après, il y a plusieurs moyens de performer, mais à la fin, c'est toujours le résultat qui compte.
Et vous, dans vos satisfactions au quotidien, gagner un match, j'imagine que c'est très important. Est-ce que vous avez d'autres domaines de satisfaction à l'issue d'un match? Peut-être parfois c'est simplement un match nul. Ça peut même être sur un match perdu. On entend souvent le terme de défaite encourageante, tout ce genre de vocabulaire-là. Est-ce que vous, dans vos satisfactions au quotidien, vous ne retenez que la victoire? Autrement dit, est-ce qu'après un match qui n'est pas gagné, mais où votre équipe a respecté tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez travaillé, ce qui est votre idée de jeu, vous pouvez avoir quand même une satisfaction qui ne sera pas complète au vu du résultat, mais quand même des éléments de plaisir.
Oui, indéniablement, parce qu'en fait, ce qui est important quand on est coach, bon, c'est par rapport au projet de jeu, par rapport à ce qu'on veut faire aussi sur le terrain ensemble. Comme je dis, le football est un sport où il y a deux équipes qui s'affrontent et il y a toujours un rapport de force. Donc, c'est la base du sport aussi, hein. Mais il faut accepter des fois d'être battu par plus fort. Mais dans la mesure où on a tout mis en place, on peut avoir aussi des satisfactions. Voilà, c'est. Je crois que le pire pour un entraîneur, c'est de perdre un match sans avoir lutté ou sans avoir donné le maximum de ce qu'on peut donner. Je dis souvent que quand on rentre dans un vestiaire, qu'on peut se regarder droit dans les yeux, malheureusement, le résultat n'est pas là. Ben, il y a un sentiment aussi de. Ouais, pas de fierté, mais de travail accompli. Alors, ça revient aussi à la première question. Le problème, c'est si ça renouvelle toutes les semaines. Là, ça devient un peu compliqué. Mais il peut y avoir des matchs, oui, où on peut ne pas gagner et toutefois tirer beaucoup de satisfaction du match qu'on vient de faire.
Au niveau du projet de jeu, on peut utiliser plein de termes, hein, de philosophie de jeu, de vision même, de développement du football d'une équipe, etc. J'aime bien citer un entraîneur qui est à la mode maintenant, Roberto De Zerbi, l'Italien qui est à Brighton aujourd'hui, et qui lui, il ne dit pas je choisis comment je vais gagner les matchs, mais il dit je choisis comment je les perds. C'est-à-dire qu'il est bien conscient que lui, évidemment, il ne va pas gagner tous les matchs en fonction des équipes où il est. Je veux dire, quand on est à Sassuolo, à Brighton, au Shakhtar, on ne gagne pas tous les matchs. Mais il dit que sa méthodologie amènera des victoires et des défaites, mais au moins quand il perd, il sait pourquoi il perd. C'est-à-dire qu'il a choisi le chemin qui, selon lui, va emmener à la meilleure performance possible, mais qui peut, dans le chemin tout au long d'une saison, amener des défaites aussi.
Ouais, je partage assez ce sentiment. Ça revient à dire que nous, le but du jeu quand on est entraîneur, c'est que son équipe performe dans son projet de jeu. Après, comme je dis, il y a des rapports de force ou peut-être que l'équipe adverse a des éléments qui sont un peu plus forts. Mais si jamais nous, on a pu développer ce qu'on voulait développer, ce qu'on voulait mettre en place, ben, on sait pourquoi, entre guillemets, on a perdu. C'est parce que l'adversaire avait peut-être un peu plus de talent dans certaines lignes. Et ça, il faut, quand on coach des équipes, ce qui m'est arrivé en Ligue 1, qui sont des équipes de deuxième partie de tableau, c'est vrai que quand on joue des matchs souvent contre les grands clubs européens, que ce soit Paris ou autre, ben, on peut mettre tout ce qu'on veut si on arrive à mettre ce qu'on place, mais après, il y a des talents aussi qui font la différence. Donc, l'année dernière, par exemple, on a reçu le PSG où vraiment on a fait un très très bon match ici. On perd 2-1 parce qu'à un moment donné, Mbappé ou fait un doublé et à lui seul, pratiquement il nous bat, mais nous, on avait donné tout ce qu'on pouvait donner. Donc là, il y a un sentiment aussi de fierté. Alors, dire qu'on construit nos équipes, on sait où on perd, je vois exactement ce qu'il veut dire et je me rapproche assez de ça. Oui.
Alors ça fait une vingtaine d'années que vous êtes entraîneur maintenant. 20 ans, c'est long à l'échelle du football parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce que le football évolue, parce qu'il y a des changements de génération, des changements de cycle, parce que entre le football des années 2000, il suffit de se replonger. Hein, d'ailleurs, dans le football des années 2000, c'est assez intéressant. Je conseille aux gens de regarder des matchs de Coupe du Monde de 98, 2002, 2006, et ce qu'on a eu récemment, c'est vraiment très différent. Est-ce que vous, au fur et à mesure de cette évolution du football qui accompagnait votre évolution en tant qu'entraîneur, votre vision du football, votre projet de jeu a, je vais pas dire changé, mais en tout cas a évolué. Qu'est-ce que vous avez mis de différent, de nouveau, aussi bien sur, alors je parle pas trop dans la relation avec les joueurs en termes de gestion des joueurs, parce que là, ça paraît presque évident, en fait, parce que les jeunes des années 2000 sont pas les, enfin, ou les jeunes qui ont grandi dans les années 80, 90 sont pas les mêmes d'aujourd'hui qu'aujourd'hui. Mais plutôt sur le terrain, sur la méthodologie de travail, sur les séances d'entraînement, sur l'intensité, qu'est-ce que ce football vous a fait changer dans votre approche du football même?
Alors moi, je vais d'abord répondre par l'évolution, parce que pour moi, c'est une double évolution, parce que dans mes 20 ans de carrière, c'est l'évolution par rapport d'abord au niveau, puisque j'ai commencé à entraîner en DH à l'époque, donc c'est la R1. Et moi, l'évolution, je l'ai connue en franchissant les étapes, puisque j'ai fait toutes les divisions qui m'ont mené de la division honneur jusqu'à la Ligue 1. Et indéniablement, on n'a pas les mêmes choses, les mêmes attentes quand on entraîne une équipe en R1 de maintenant ou qu'on entraîne une équipe en Ligue 1. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que le football, il a évolué sur beaucoup de choses. Et vous l'avez dit, si on revoit les matchs 98, de 2000, il y a déjà une évolution qui est due, au moins, à la vitesse de jeu, dû, je pense aussi aux infrastructures, parce qu'il y a les terrains, et maintenant ces fameux terrains hybrides permettent à tout moment de la saison d'avoir des pelouses vraiment impeccables qui ont donné de la vitesse au jeu. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est bien sûr dans les méthodologies d'entraînement. Je crois que, je le disais dernièrement avec un membre de mon staff, avant on construisait des diesels, maintenant c'est des F1, quoi. Parce que on s'est aperçu que ben c'est vrai que dans les années 2000, on faisait beaucoup, alors je vais être un peu technique, mais on faisait beaucoup de travail aérobie, beaucoup de foncier, beaucoup de courses. C'est des choses qu'on fait maintenant, mais qui sont plus basées maintenant sur des répétitions d'efforts, sur un travail de puissance, et qui amène les joueurs à être beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Et je trouve que la dimension athlétique a obligatoirement fait, nous, entraîneurs, nous a fait réfléchir sur les choses à adopter. Je crois que il y a eu la méthode, entre guillemets, du Grand Barça, où c'est que tout le monde était sur la possession. On s'aperçoit que maintenant, il y a eu. On va aussi un peu dans le courant de ce qui se passe. Il y a eu la méthode. Après, il y a eu la méthode Liverpool avec Klopp, beaucoup sur la transition. On s'aperçoit que maintenant, les très grandes équipes, c'est celles qui sont capables de faire les deux. Et voilà, à titre personnel, je dis aux joueurs surtout qu'il n'y a pas une seule manière de performer dans le football. C'est qu'il faut être capable d'être en lecture de situation. Comme je disais tout à l'heure, le rapport de force est important aussi. On peut raconter ce qu'on veut, mais quand on joue quand on est à la tête d'une petite équipe, on a toujours envie d'avoir le ballon, de se créer des situations. Mais des fois, ben voilà, si on affronte un très gros, il faut être capable de dire que le match, on va le jouer avec 25, 30% de possession, parce que ça existe. Donc, comment on prépare l'équipe là? Donc, c'est pour ça que je dis que les deux modes, pour moi, il n'y a plus les équipes de possession, les équipes de transition. Les équipes, maintenant, c'est entre guillemets, on le voit sur les schémas tactiques, on parle beaucoup de schémas hybrides, mais je crois que maintenant, il faut être capable de jouer sur les deux. Parce qu'il y a des temps de jeu où c'est que même des équipes fortes acceptent de laisser le ballon pour être plus fort. J'ai toujours retenu une phrase de Jürgen Klopp qui est pour moi un modèle d'entraîneur qui disait que l'attaque de l'adversaire était quand l'adversaire avait le ballon, c'était là où il se préparait à les attaquer. Donc déjà, dans le raisonnement, c'est comment je vais récupérer le ballon, dans quelle zone je vais récupérer le ballon pour que je puisse faire mal derrière. Donc voilà, et aussi la possession qui permet d'user, que ce soit mentalement ou physiquement, l'équipe adverse. Donc voilà, je crois que l'évolution, elle est là maintenant dans le football actuel.
C'est intéressant cette phrase de Jürgen Klopp parce que quand l'adversaire a le ballon, je me prépare à l'attaquer. Et moi qui suis beaucoup le football italien, il y a un autre concept qui est l'inverse finalement, c'est quand j'ai le ballon, je me prépare déjà à défendre. Exactement, et c'est intéressant de voir ces deux options qui finalement se complètent plus qu'elles ne s'opposent.
Bien sûr.
Et notamment, par exemple, on le voit en Ligue 1 aujourd'hui, un Farioli à Nice explique que sa possession à lui, elle est faite évidemment pour construire le jeu, mais elle est faite aussi pour se préparer aux transitions, parce qu'il s'est aperçu en arrivant en France que l'une des grandes qualités des équipes françaises, et en tout cas une marque de fabrique du championnat de France, c'est la capacité à jouer en transition avec des joueurs très puissants et rapides.
Oui, mais c'est ça. Après, c'est toujours une notion d'équilibre parce que, alors moi, j'ai retenu cette phrase parce que c'est vrai que j'adore Jürgen Klopp et la façon dont on joue Liverpool. Mais après, il faut bien sûr, quand on attaque, avoir déjà en tête les équilibres qu'on va trouver au niveau de l'équipe. Et c'est vrai que, donc, Farioli qui amène ça à Nice. Mais comme je dis, c'est, faut arriver à trouver un lien entre les deux et surtout un équilibre. Pour moi, ça ne s'oppose pas. Voilà, tout simplement. Donc, on sait que pour être performant, ben, il faut être souvent une équipe qui défend bien. Et défendre, c'est pas simplement, comme souvent certains l'entendent, gagner des duels. Pour moi, et je le dis souvent à mes joueurs, défendre, c'est aussi avoir le ballon. C'est ce que fait un peu Farioli quand il met un rythme très lent au match pour garder le ballon parce qu'il dit que ben oui que c'est précieux et que si il garde le ballon et qu'il a une structure bien en place, l'équipe adverse a du mal à avoir le transition. Donc c'est toute une réflexion qui est, je trouve totalement différente maintenant. Et quand on parlait tout à l'heure de la possession du Barça, le Barça défendait très bien parce qu'en fait ils étaient capables de tenir le ballon. Donc l'équipe adverse, ben, elle a usé physiquement, mentalement. Après, voilà, il faut être fort sur les 1 contre 1 défensifs, mais c'est beaucoup d'équilibre à trouver au sein des structures de jeu.
Vous avez justement affronté Nice en Coupe de France, c'était en 16e, si je ne dis pas de bêtises.
32e, 32e.
32e, 32e.
Ouais.
Justement, vous avez eu cette difficulté à récupérer le ballon et à enclencher des transitions face à eux?
Oui et non, parce que. On fait 0-0 d'ailleurs, et puis on marque un
Oui.
but refusé à un quart d'heure de la fin qui est vraiment très limite sur une transition. Mais en fait, dans la mesure où on était le petit, puisqu'on était le club de Ligue 2 contre le club qui à ce moment-là était second ou troisième en Ligue 1, on avait accepté de leur laisser le ballon. On les a un peu piégés par rapport à ça parce qu'ils avaient du mal à se créer des situations. Et nous, on a pu avoir des espaces ouverts aussi. Non, voilà, c'est toujours, comme je dis, c'est toujours un rapport de force tactique ou autre. On savait qu'ils allaient avoir le ballon, c'est pas ce qui leur plaisait le plus, surtout dans certaines zones. Et je trouve qu'on avait été, nous, très intelligents de la façon de défendre et surtout d'attaquer. Voilà, donc ça avait fait 0-0. On s'incline malheureusement au pénalty parce qu'il y avait un gardien en face, Boutka, qui est impressionnant là-dessus.
Vous parliez de Jürgen Klopp, que vous semblez apprécier vraiment comme entraîneur. Quand on parle à des joueurs, souvent, au fur et à mesure de la discussion, reviennent chez eux des souvenirs de leur enfance où ils essayaient d'imiter les gestes de leurs attaquants, si c'était des attaquants préférés, des défenseurs, si c'était des défenseurs préférés, etc. De leurs joueurs préférés, de leurs idoles, souvent, ils expliquent ça. Est-ce que les entraîneurs, ça regarde aussi un petit peu les entraîneurs qu'on apprécie, qu'on admire, je ne sais pas quel terme il faut vraiment utiliser, et en essayant de voler, entre guillemets, de s'inspirer de ce qu'ils font pour ensuite le mettre en place à son échelle, évidemment, si l'échelle est très différente. Moi, je sais qu'il y a des coachs amateurs, par exemple, qui m'ont parlé de Zerbi en disant ça m'intéresse, j'ai pris ça pour mon équipe. Alors évidemment, c'est une équipe amateur par rapport à une équipe de première ligue, etc. Donc les degrés sont très différents. Mais est-ce que vous regardez, bon, effectivement, Klopp, maintenant, vu que vous avez évoqué ce cas-là, mais peut-être d'autres, chez qui vous voyez des choses qui vous intéressent vraiment?
Je crois qu'un entraîneur professionnel, c'est un grand curieux surtout. Un grand curieux, un grand voleur. Parce qu'on est aussi des voleurs d'idées. Moi, mon staff, moi, on regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs des autres équipes. Et il y a tout qui peut nous intéresser. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, mon staff avait fait des études sur Liverpool, sur les sorties de ballon, surtout parce que c'est vraiment quelque chose qui. Mais on regarde tout. Tous les entraîneurs, que ce soit dans le championnat français, ça peut être en Ligue 1, en Ligue 2, même en national, les championnats étrangers, on regarde tous les matchs pour voir ce qu'on pourrait nous transposer à notre équipe. Après, il faut faire très attention parce que prendre une équipe et dire moi je veux qu'elle joue comme Liverpool ou comme Manchester City, à l'heure actuelle, c'est difficile à transposer. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent être aménagé, qui est sur soit des coups de pied arrêtés, soit des sorties de ballon, soit des. Voilà, non, mais il y a beaucoup de choses. Je crois que. Ouais, si on doit définir ça, ouais, je dirais que je suis un grand voleur d'idées.
Vous avez réussi un grand nombre de montées, je le disais tout à l'heure, avec Revel, si je ne dis pas de bêtises, Luznac, Amiens, Lorient. En attendant peut-être une très prochaine avec un cinquième club. Est-ce que quand vous vous repenchez sur toutes ces années de montée, vous avez trouvé un dénominateur commun, ou plusieurs d'ailleurs, que ce soit sur, je sais pas, la gestion du groupe, sur l'ambiance, l'environnement, le terrain, ce qui s'y passe, quelque chose que vous avez mis en place de spécial. Est-ce que vous vous retrouvez des dénominateurs communs?
Ouais, le grand dénominateur, ce que je disais, c'est l'unité. L'unité qui est à plusieurs niveaux. Déjà, l'unité au sein d'un club. On s'aperçoit que, et je me suis aperçu que lorsque la synergie, elle est très bonne entre la direction, le président, le directeur sportif, s'il y en a un, et coach, ce triangle-là, il est primordial. Il est primordial. Si ce triangle-là travaille ensemble, la synergie, il y a souvent, il peut y avoir des résultats. Par contre, je sais très bien que si ce triangle ne marche pas, il y a rarement des résultats. Ça, c'est la première chose. Après, quand je parle d'unité, c'est aussi ce qu'on peut rapprocher à état d'esprit, ambiance d'un vestiaire. Et là aussi, on sait que dans un vestiaire, il y a 25 égos ou 30 égos selon le nombre. Il y a des courants. Et si mon rôle, celui de staff, c'est qu'en fait, c'est que ce vestiaire vive bien ensemble. C'est une phrase qu'on connaît bien, mais c'est primordial. C'est primordial parce que c'est toujours la volonté d'un groupe, c'est toujours la volonté d'un collectif d'aller se sublimer, d'aller chercher les choses. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui ressort quand je regarde le nombre de fois où je suis monté. Je regarde toujours mes groupes. C'est des groupes qui ont toujours été dans un esprit de partage, un état d'esprit de travail et d'unité.
Est-ce que dans l'équilibre du groupe, il y a une proportion, je ne sais pas, de jeunes, de moins jeunes, de joueurs d'expérience, de fraîcheur, de profil de joueurs aussi en fonction du système de jeu? Est-ce que vous avez besoin de cet équilibre-là entre ce qu'on a, c'est un peu un cliché ou une tarte à la crème, mais la fougue de la jeunesse et le calme et la gestion des joueurs un peu plus expérimentés?
Ouais, c'est primordial. Moi, je parle toujours du un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers de joueurs qui ont l'expérience du haut niveau, un tiers de joueurs en développement ou qui sont déjà des bons joueurs de club, et un tiers de jeunes. Je pense que quand on arrive à faire cet amalgame-là, souvent le vestiaire vit bien.
D'ailleurs, c'est quand on regarde un peu l'effectif d'Auxerre, on voit assez bien quel joueur rentre dans quelle case, entre certains qui sont un peu plus expérimentés et qui ont déjà connu la Ligue 1, notamment, d'autres qui ont déjà, qui sont plus, enfin, plus jeunes à l'échelle d'un footballeur, évidemment, dans la force de l'âge, on va le dire comme ça, et puis les très très jeunes qui sont en plein développement et que vous êtes en train d'utiliser aussi dans cette saison et qui vont être amenés à augmenter leur niveau aussi, leur degré d'exigence, leur compréhension des situations, etc., etc. Donc l'effectif de l'AG, effectivement, ressemble un petit peu à tout ça. Juste pour revenir sur une montée spécifique, et moi qui suis pas de là-bas, mais je reste encore aujourd'hui un peu déçu et voire même un peu dégoûté. Vous me voyez venir de très très loin. C'est l'USNAC. C'était il y a 10 ans. L'USNAC monte en Ligue 2 avant que la machine des institutions n'empêche le club de jouer en Ligue 2 pour des raisons administratives liées au stade, etc., etc. On va pas refaire toute l'histoire. Mais moi, ce jour-là, en fait, ça a cassé un peu ce qui restait une sorte de mythe ou de conception de n'importe quel club en France qui travaille bien est capable de rêver et d'accéder au plus haut niveau. Pour moi, ce jour-là, je me suis dit, en fait, ce club-là, qu'il ait bien travaillé ou pas bien travaillé, on peut partir dans toutes les directions, on n'est pas à l'intérieur, donc moi je ne pouvais pas le savoir. Est-ce qu'il a bien travaillé? Globalement, si on fait des montées comme ça, c'est qu'on travaille quand même plutôt bien. Mais cette espèce de casser le rêve d'un club pour une histoire de stade me semble totalement contraire à tout ce qu'on nous raconte depuis qu'on est petit en disant, voilà, si un club se développe bien, travaille bien, qui a le bon état d'esprit, etc., même si vous êtes tout petit, eh ben vous allez pouvoir accéder, alors je parle même pas de la Ligue 1, vous allez pouvoir accéder à la Ligue 2 au niveau professionnel.
Ouais, mais je crois qu'on l'a tous vécu comme ça parce que surtout, moi, ça a cassé, du moins, tout ce qu'on prône sur les valeurs du sport. Cette montée, on l'a réussi, nous, les joueurs, le staff, le club, on l'a réussi sur le terrain. On n'a pas triché pour obtenir des résultats. Et derrière, quand on oppose dans une première partie le financier, en sachant que après une fois que ça c'est pas bon, en fait On a senti, nous, que ben, ils ne voulaient absolument pas, donc ils ont toujours cherché quelque chose pour nous empêcher d'accéder. Alors voilà, je sais qu'à ce moment-là, à qui profite le crime, il faut bien regarder et savoir les clubs qui étaient en difficulté à cette époque-là, qui ont permis de les sauver. C'est comme ça, mais comme je dis, ça restera toujours une très grosse cicatrice du sportif que je suis, parce que pour moi, on avait remporté le rapport de force, entre guillemets, même s'il y avait des clubs qui étaient bien plus armés que nous, et on nous a cassé le rêve. Donc ça, malgré ce que j'ai pu réaliser derrière, parce que peut-être que si j'étais resté à Luzenac, Vestemontais, j'aurais pas pu faire ma carrière, du moins elle aurait été différente. Mais en termes, je veux dire, de valeur, d'amoureux du sport, c'est une très grosse déception. Oui.
Pour beaucoup de gens, Luznac, c'est le talc et la route pour aller en Andorre. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Alors, évitons de parler de la fin, mais en tout cas, surtout le
Non, mais
parcours à Luznac.
c'est une aventure humaine extraordinaire. J'y reste 7 ans, où quand je vais là-bas, ils alternent entre la CFA2 et le CFA. Et qui est déjà quand même quelque chose d'énorme pour un village de 600 habitants. Et on me demande de maintenir le club en CFA, en gros, d'arrêter de faire le yo-yo et maintenir le club en CFA, c'est déjà un très, très gros exploit. Et après, voilà, on arrive déjà à le faire à monter en national. J'ai toujours le souvenir de le jour de notre montée en national, dès le lendemain, le club ne veut pas monter en national parce qu'on dit, eh ben, nous, on va exploser dans cette division, on ne peut pas. Et puis tout le monde dit, bon, eh ben, écoute, on va y aller, on va affronter des Guingamp, des Strasbourg, des Reims. À l'époque, il y avait un national. De toute façon, on va redescendre. Et on finit 10e la première année. Et voilà. Et puis, 4 ans après, on arrive à monter, on arrive à obtenir cette montée sportive. Donc, bah, c'est Luzenac qui m'a permis d'être connu et reconnu aussi en tant que coach. Donc, c'est le commencement pour moi, une aventure humaine, que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec l'ensemble du club, qui a été extraordinaire. Donc, c'est vrai que même 10 ans plus tard, j'ai l'impression que c'est hier.
Après Luznac, vous allez à Amiens, où vous réussissez deux montées, de National en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu plusieurs exemples de double montée de clubs un peu inattendus, comme ça, sur le papier. On a eu Evian Thonon-Gaillard, Arles-Avignon, le Gazélec Ajaccio, Amiens, donc. Ça fait quand même pas mal d'exemples en même pas 10 ans. C'était surtout sur la décennie 2010. Et dans le même temps, on dit que le fossé n'a jamais été aussi important entre la Ligue 1 et les autres divisions en dessous, notamment pour des questions d'ailleurs d'argent, de redistribution des richesses. Comment vous expliquez que des clubs aussi peu habitués au haut niveau parviennent à faire comme ça des doubles montées, donc c'est successif, hein, passer de la troisième division à la première division pour les auditeurs en 2 ans? Alors que le niveau semble finalement très important, très différent entre la Ligue 1 et la troisième division.
Ouais, alors la première montée, elle est de National à Ligue 2, Ligue 2 à Ligue 1. Donc en fait, moi, d'après ce que je ressens maintenant, la différence, elle est moins importante entre le National et la Ligue 2 que ce qu'elle est entre Ligue 2 et Ligue 1. Donc, on avait parlé d'exploit quand on est arrivé à faire ça, National Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1, pour un club qui n'y était jamais arrivé en Ligue 1. Moi, je trouve que l'exploit, c'est ce qu'on est arrivé à faire derrière, c'est-à-dire à maintenir pendant 2 ans
Ouais.
le club. Et la première année, on finit même 12e ou 13e en Ligue 1. Donc, en fait, souvent, le fait de monter, c'est bien, mais je trouve que maintenant, le niveau entre la Ligue 2 et Ligue 1 s'agrandit d'année en année par rapport au budget, par rapport au fait que. Mais maintenant, il y a 18 clubs en Ligue 1, ça devient de plus en plus difficile. Mais voilà, l'exploit, il avait été là. Je crois que sur les 4 ans, on fait donc 2 montées plus 2 maintiens, avant que je parte, mais puisqu'ils sont descendus après l'année d'après. Mais je trouve que c'était là. Alors, je pense que ces montées, c'est aussi, on dit que des fois, il y a des dynamiques de groupe. Nous, on avait construit une équipe qui, pratiquement, de National jusqu'à Ligue 1, est restée pareille. Il y a eu beaucoup de turnover après sur la Ligue 1, mais c'est une dynamique de groupe à deux, trois éléments près qui a réalisé ça. Quand on est dans des dynamiques comme ça, entre National et Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1, je pense que c'est quelque chose qui peut être important. D'ailleurs, nous, cette année-là, quand on monte et on fait la même chose à Strasbourg et Amiens, on est ensemble en National, ensemble en Ligue 2 et on monte à Ligue 1. Même si c'est deux clubs totalement différents, bien
Voilà.
sûr, par rapport à l'histoire, par rapport aux structures. Mais je pense que le plus difficile maintenant, c'est. Alors, c'est très, très dur d'y monter. Et c'est très, très dur, encore plus dur de s'y maintenir.
À Amiens, vous aviez un joueur, Gaël Kakuta, et récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça, Eden Hazard a expliqué dans un podcast anglais que on lui a posé en gros, dans ta carrière, quel est le joueur avec le plus de talent que tu as rencontré? Et donc lui il explique, bah, au Real, j'ai joué avec les meilleurs joueurs, à Chelsea, j'ai joué avec des super joueurs, Ligue des Champions, etc., etc. Mais il me dit, si vous me parlez de talent pur, c'est Gaël Kakuta. Quel souvenir vous gardez de Gaël Kakuta à Amiens, qui d'ailleurs avait fait une très très grosse saison la première année où il est à Amiens?
Ouais, mais moi je l'ai eu qu'un an, hein. Je l'ai eu que cette
Ouais.
année-là.
Après, il
Après,
revient, vous n'êtes plus là, c'est ça?
ouais. Non, quand il revient, je ne suis plus là. Oui. Mais je l'ai eu un an avant qu'il reparte au Rayo Vallecano. Ouais, je crois que c'est pas qu'il nous maintient à lui tout seul parce que ce serait insultant pour les autres. Mais on dit toujours que quand on fait une saison comme ça, on a eu Régis Burner dans les buts qui a été exceptionnel avec la défense, mais Gaël, c'était le joueur plus, c'était le joueur, le facteur X, comme on dit, de notre équipe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Gaël et j'ai eu la chance d'avoir Tanguy Ndombele aussi. Pour moi, c'est vraiment deux talents hors normes. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, les deux, pour moi, n'ont pas eu la carrière qui, par rapport à leur talent, auraient dû avoir. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est des joueurs qui sont différents. Voilà. Et j'ai eu la chance de les avoir les deux. Donc, ouais, ça, c'est des joueurs. Et Gaël, voilà, parce qu'en fait, on voit Gaël, le joueur qui est très, très bon avec le ballon ou autre. Mais nous, on était une équipe qui était une équipe de transition parce qu'on avait, on n'avait pas trop le ballon à Ligue 1 la première année. Mais il a participé aux tâches collectives. Non, franchement, c'était le joueur complet, oui.
Après Amiens, vous allez à Lorient en Ligue 2. Nouvelle fois, le club monte en Ligue 1, la spécialité. Et dans ce club, il y a une très forte culture de jeu qu'a amené Christian Gourcuff. Cette culture du jeu, elle s'est aussi transformée avec l'influence qu'a eu Christian Gourcuff en attente de jeu pour ses successeurs. Tous ceux qui sont passés après Christian Gourcuff ont eu cette sorte de pression un petit peu de vouloir un jeu chatoyant, alléchant. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi?
Ouais, tout à fait. Je crois que c'est une marque de fabrique là-bas, mais voilà, c'est peut-être ce qui a coûté mon éviction. C'est vrai que quand je vois après l'équipe de Lorient qui joue maintenant, je m'aperçois que c'est exactement les mêmes préceptes et ce que je disais. On est toujours dans un rapport de force, on a toujours envie de jouer comme ci, comme ça, mais après, il y a une équipe en face qui fait que. Donc, ouais, je l'ai ressenti et je pense que ce n'est pas quelque chose de positif parce que le football évolue et il faut évoluer avec. Donc, voilà, même si, moi, j'ai le souvenir en tant que spectateur, la méthode de Christian Gourcuff, c'était aussi beaucoup de jeux en transition sur leur synthétique avec des joueurs devant qui faisaient d'énormes différences. Donc voilà, après, je pense qu'ils étaient aussi, le public là-bas, en attente de résultats un peu plus probants. Mais bon, on sait que quand moi, j'ai pris le club en Ligue 2, on est remonté, on s'est maintenu deux fois, mais comme je dis, c'est la marge est haute et on s'est maintenu deux fois difficilement, donc je pense qu'ils attendaient autre chose aussi. Mais faire attention, comme je dis, ce n'est pas ce que je ressens ici, par exemple à Auxerre, où bien sûr, il y a eu des résultats qui ont été bien meilleurs en plus que ceux de Lorient. Mais oui, ils sont vraiment dans le résultat, dans l'équipe qui fonctionne. Là-bas, je pense qu'il y avait un peu de nostalgie qui était un peu dépassée.
Ouais, et souvent ça a des bons côtés, ce côté nostalgique ADN, etc., parce que ça repose quand même sur des bases finalement assez solides. Mais parfois, c'est ce qui peut aussi empêcher le club de progresser, de rester un peu trop ancré dans certaines certitudes et croyances du passé et ne pas réussir à se moderniser. Et par exemple, moi, un club que j'aime bien sur le principe, c'est Montpellier. Club très familial, avec un environnement qui se connaît parfaitement, etc. Mais les entraîneurs qui viennent de l'extérieur ont parfois un peu du mal avec ce fonctionnement-là, ce côté très familial, très lié, avec des personnages clés qui sont vraiment autour du président et qui se sentent un petit peu en difficulté par rapport à ça et qui ont du mal à faire évoluer le club.
Oui, sûrement. Alors, Montpellier, je peux le voir que de l'extérieur parce que j'ai jamais travaillé, mais on sent aussi une identité forte à la Paillade autour de personnalités, comme vous dites. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de Lorient parce que j'y suis resté 3 ans.
Bien sûr.
Donc j'ai bien ressenti ça. Les Aristotle, à un moment donné, après l'ADN de Lorient aussi, c'est par rapport aux jeunes et il faut reconnaître que là, c'est un club qui, sur la formation, travaille très très bien et peut développer des joueurs aussi, mais voilà, après, entre guillemets, on a souvent tendance à dire qu'il faut vivre avec son temps aussi. Les clubs vont évoluer, le football a évolué. Et voilà, je crois que il faut faire attention, il faut garder beaucoup de. Et il faut jamais insulter le passé, comme je dis. Et je suis bien placé ici pour le savoir avec Auxerre. Mais il faut aussi voir une vision peut-être un peu différente pour l'avenir.
Mais c'est intéressant parce que Auxerre a connu ça aussi. Quand Giroud est parti, évidemment, au milieu des années 2010, tous les successeurs ont été confrontés à oui, avec Giroud c'était comme ça, avec Giroud c'était comme ça.
Je crois que c'est dur d'arriver dans des clubs où il y a eu un personnage central comme Christian Gourcuff à Lorient, comme Giroud ici. Je crois qu'on ne peut pas empêcher après les comparaisons. Le travail qui a été fait ici en amenant le club champion avec un doublé, en faisant la Ligue des Champions, en développant énormément de joueurs qui après ont été en équipe de France. Voilà, c'est ça, il faut à la fois s'en servir, mais pas être bloqué sur ça. Le football a évolué. Donc, quand on parle d'Auxerre à l'époque, Auxerre faisait partie des deux, trois plus gros clubs français avec la deuxième ou la troisième masse salariale, il faut le savoir aussi. Et maintenant, c'est quand même différent. Donc, il y a des enjeux économiques qui ont fait aussi que le football, pour des villes comme Auxerre, est devenu aussi plus compliqué. Mais je pense que c'est un club aussi qui sait se reconstruire.
Il y a un an et demi, vous êtes donc arrivé à Auxerre. Le club était en Ligue 1. Le club est descendu en Ligue 2. Vous êtes resté avec la GIA. Aujourd'hui, saison de rebond en Ligue 2. Vous êtes premier en Ligue 2 avec un beau petit matelas, même si on n'ira pas plus loin là-dessus. Vous avez connu les deux types d'expériences d'un entraîneur. Commencer au début de la saison, c'est-à-dire faire toute la préparation avec le club, pouvoir avoir une influence sur le mercato. Choisir les joueurs, mettre en place, avoir le temps de mettre en place, parce que la pré-saison, c'est aussi ça. D'avoir aussi sa méthodologie sur la préparation physique, parce que tout le monde n'a pas la même méthodologie. Et puis arriver en cours de saison, vous l'avez fait à Amiens de mémoire, quand vous arrivez, et donc là à Auxerre. Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors j'imagine qu'il y a une question de. Quand on arrive en cours de saison, c'est très rare que ça ne soit pas dans des timings d'urgence, de besoin de résultats. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que le métier est si différent quand on arrive en cours de saison de quand on a le temps de travailler sur le début de saison?
Ouais, il est différent. Il est différent parce qu'on arrive dans un vestiaire qui a été choisi par son prédécesseur avec une méthodologie de travail et le fait que ça ne marche pas, puisque si on arrive, c'est parce que ça ne marche pas, du moins ça ne marche pas, les résultats ne sont pas là. Donc le club a fait un choix. Donc le club, quand il fait un choix de vous prendre, c'est qu'en fait, il veut être un peu à l'opposé de ce qui a été fait, parce que comme ça ne marche pas dans un sens, voilà, donc en fait, on arrive avec des idées ou une méthodologie qui n'est pas en adéquation avec celle que le coach avait avant, et donc qui rarement en adéquation avec les joueurs qu'il y a, parce qu'ils ont été choisis pour. Je vois Auxerre où j'arrivais, en plus, on connaît avec Jean-Marc Furlan, qui avait quand même des idées fortes, une méthodologie forte avec certains joueurs. Et il faut arriver, prendre l'équipe donc qui est en difficulté et avec des joueurs qui sont pas programmés à la fois pour jouer en Ligue 1 et ça a été ça la difficulté. Mais moi je l'ai pris comme une expérience supplémentaire aussi. C'est peut-être pour ça aussi que le club a choisi de repartir avec mon staff et moi parce qu'en fait on était, je crois qu'en janvier, je crois qu'on avait 8 ou 9 points de retard sur le premier non relégable. On a échoué un point. En mettant des choses en place qui ont permis d'adhérer à tout le monde, le public s'est retrouvé dans cette équipe, à les valeurs et tout. Donc ça, c'est important. Mais après, c'est vrai que c'est plus confortable de prendre une équipe en début de saison. Ça, c'est certain.
Alors aujourd'hui, je le disais, la JA est leader de Ligue 2. On va faire un petit point data, a marqué le plus de buts, s'est produit le plus d'occasions de qualité à travers les expected goals, a marqué 12 buts de la tête. Ça, je l'avais pas forcément en mémoire, c'est en cherchant tout à l'heure la typologie des buts. 12 buts de la tête, ce qui est quand même assez énorme, alors qu'on n'en est qu'à... Il reste un cinquième de la saison, quelque chose comme ça, je crois, entre un quart et
Ouais,
un
il reste
cinquième.
9 matchs.
Ouais, c'est ça, donc quasiment un quart de la saison. À la deuxième plus grosse possession de Ligue 2, possession de balle, centre le plus et de très loin, touche le plus de ballons dans la surface adverse et de très très loin, est proactif à la récupération au pressing avec sur les indicateurs, la GIA est très très bien placée sur le podium. Il y a encore beaucoup d'autres indicateurs que je pourrais évoquer. On a le sentiment quand même, bon, déjà en voyant les matchs, mais après si on se penche un petit peu sur la data, d'avoir un style très défini aujourd'hui à Auxerre. Vous parliez d'être capable de faire plein de choses différentes et on le voit parfois sur des morceaux de match, des morceaux où vous subissez un petit peu plus parce que ça ne nécessite que l'adversaire est dans une période du match où il est un peu plus fort, mais globalement, vous êtes sur des prestations de domination sur ce championnat qui est assez impressionnante, sincèrement, quand on regarde déjà les matchs et ensuite quand on se penche aussi un petit peu sur la data. La GIA, et moi j'en parlais avec, bah, par exemple, on a fait le dernier épisode, c'est avec le responsable merchandising de la Saint-Etienne, qui me disait la GIA est extrêmement impressionnante cette saison en Ligue 2.
Ouais, mais c'est vrai que honnêtement, on a été assez tôt dans la saison et ça a été une surprise parce que quand on descend, il y a toujours un traumatisme qui se met au niveau du club et tout ça. Ce que je dis que le club a très très bien travaillé parce qu'on n'a pas senti ce traumatisme-là. Et nous, quand on a repris la saison, on a mis un projet de jeu très clair avec des principes de jeu très clairs, que ce soit sur le plan défensif, sur le plan offensif, pour de suite mobiliser les joueurs sur un nouveau projet et qu'on ne se morfonde pas sur le fait, on descend, on est ci, on est ça. Et j'avais de suite mobilisé le groupe en disant, nous, on n'est pas une équipe qui descend. On est une équipe qui se reconstruit et qui veut mettre en place un projet de jeu tourné vers l'avant. Et je ne vous parlerai pas de, je parle pas de classement, même à l'heure actuelle, c'est simplement notre projet de jeu, et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est vrai que dès les premiers matchs amicaux, j'ai trouvé que le groupe avait vraiment du répondant et était très réceptif par rapport à ce que je leur proposais. Donc après, voilà, comme on sait, les résultats aidant, la confiance est là et on a pu faire la série au mois d'octobre qui nous a propulsé là-haut. Et après, voilà, le foot, on sait très bien qu'aussi ça se passe dans la tête. Quand il y a de la confiance aussi, on est capable de faire de grandes choses et ces joueurs sont capables, de par leur état d'esprit, de leur envie de progresser, de prendre du plaisir à être une très bonne équipe, ce qui montre.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous disiez le club a très bien travaillé cet été pour pas que la descente influe trop sur le moral de l'ensemble du club. Est-ce que le fait que ça soit pas aussi non plus d'ailleurs la sinistrose au niveau des supporters, de l'environnement, ça a aidé? Parce que moi j'étais très très surpris, pourtant je connais bien ce club, je suis né à Auxerre et je le supporte donc je le connais très bien. Mais quand les chiffres d'abonnement ont été annoncés, alors que le club venait de descendre, j'ai quand même été un peu surpris de l'ampleur du soutien des supporters parce que on était quasiment à 10 000 à la fin de la période d'abonnement. Je me suis dit, 10 000 en Ligue 2, alors que tu descends et que tu as vécu quand même malgré tout une déception de descendre.
Bien sûr.
Bon, je me suis dit, ça montre que bon, tout le monde n'est pas déprimé non plus et qu'ils veulent tous repartir sur quelque chose de nouveau.
Ouais, mais c'est ce que j'appelle l'unité. Je crois que le public fait partie intégrante pour moi de l'unité d'un club. Et on s'aperçoit que. Mais c'est des choses avec lesquelles j'avais beaucoup parlé aussi avec la direction. Je disais que des clubs comme Saint-Étienne, l'année d'avant, étaient peut-être descendus parce que le public avait été. Pour eux, un frein et non pas un catalyseur. Je crois On le voit là, on est allé jouer le week-end dernier, 36 000 personnes, ça pousse l'équipe, mais si, il peut être aussi de côté néfaste. Et cette chose-là, nous, on l'a jamais, je ne l'ai jamais ressenti à Auxerre. J'ai donné une anecdote quand, en mois de janvier, on reçoit Toulouse, on est mené 3-0 à la mi-temps, sur un match important. Et le public, quand on rentre de la deuxième mi-temps, mais nous pousse comme c'est pas possible. Donc, en fait, j'avais dit aux joueurs, c'est une chance d'avoir un public comme ça. Et là, cette année, on vit des moments importants avec eux. Et leur place est importante aussi, parce que je suis persuadé peut-être que ce week-end, si jamais il n'y a pas un public comme ça, peut-être qu'il nous permet du moins de retourner des situations, parce qu'ils mettent voilà, une atmosphère très positive dans ce stade. Et c'est pour ça aussi que Auxerre, pour moi, est un grand club, parce que quand on a des supporters comme ça, quand on a un public comme ça amène des valeurs et je trouve que c'est très très important.
Le président et actionnaire de ce club a fait un gros travail de mise à niveau des infrastructures avant même que vous arriviez. D'ailleurs, vous avez sans doute trouvé des infrastructures quand même de qualité, aussi bien le stade, le centre d'entraînement. Alors ça joue que ça, hein, les pelouses, les vestiaires. Il y a eu un gros travail de fait là-dessus. D'ailleurs, c'est quand même, quand on prépare l'avenir, hein, quelque chose d'essentiel, hein, ne pas mettre tout sur la valeur des joueurs dans une équipe. Bien sûr que c'est important, mais aussi sur ce qui va être leur outil de travail à la fois la semaine et aussi le week-end, un week-end sur deux. Il y a un musée, un parcours de musée qui a été inauguré très récemment à la GIA, qui justement s'appuyait, ce qu'on disait, hein, s'appuyait aussi sur l'ADN, ne pas renier son passé, au contraire le valoriser, etc. Le stade est quasi plein à chaque rencontre, ça on l'a évoqué. L'équipe joue bien, les résultats sont là, donc ça amène beaucoup d'enthousiasme. Et quand on parle d'enthousiasme aux entraîneurs, il y a toujours deux valeurs à donner à cet enthousiasme. Il y a un, la valeur positive, c'est-à-dire la confiance, l'humeur du groupe, emmener tout le monde derrière soi, etc. Et il y a une valeur un peu plus négative, mais qui n'est pas toujours présente. C'est, bah, ça peut donner de la suffisance chez les joueurs, ne plus faire forcément toujours les efforts. Penser que la montée c'est ok, être moins rationnel dans ses choix et s'emballer un petit peu. Comment on gère un peu tout ça, cet effet bouillonnant entre c'est génial, mais attention aussi.
Ben on le gère comme ça. Je dis souvent aux joueurs que les louanges, c'est le meilleur des somnifères. Et c'est vrai qu'ils en ont eu beaucoup cette année. Et il faut toujours être un peu à contre-courant. Moi, autant quand tout le monde donne les louanges, ben, je cherche entre guillemets la petite bête pour les titiller un petit peu et les faire progresser. Et par contre, quand il y a un moment un peu plus difficile qu'on vient de connaître sur les 3 derniers matchs où on sent que l'environnement est un peu plus négatif, mais là, j'accentue beaucoup plus sur le positif, moi, vis-à-vis du groupe. Voilà, il faut arriver tout le temps à jongler entre ces deux choses-là, parce qu'on sait très bien que l'équilibre, à la fois l'équilibre d'un groupe est très fragile. Et les résultats aussi, des fois, sont très fragiles aussi. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Il faut toujours maintenir, l'équipe dans la bonne direction.
Je voulais qu'on parle de deux joueurs ensemble rapidement, de l'AGA actuelle. Pendant longtemps, l'AGA n'a pas eu de joueur brésilien. Et Guiraud expliquait, bah, en fait, c'est impossible pour un Brésilien de s'adapter à l'AGA, à la culture auxerroise, au climat, à tout ce qui fait Auxerre. Et quand Guiraud était parti, ils avaient essayé un Brésilien, Marcos Antonio, un défenseur, et ça s'était pas bien passé. Il n'avait pas été performant, il n'était pas resté longtemps, etc. Aujourd'hui, vous avez un capitaine qui est brésilien, qui est vraiment, j'allais dire excellent. Alors, c'est toujours difficile d'évaluer, mais vraiment, il fait une très grosse saison. Et même en Ligue 1, il y a eu des passages en Ligue 1 où je le trouvais vraiment haut niveau, en fait. Jubal, en l'occurrence, puisqu'on va le citer. Il est brésilien. En plus d'être un bon défenseur, bah, il est décisif, il marque des buts. On l'a vu encore ce week-end contre Caen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur?
Ouais, comme je disais, moi j'ai découvert Jubal, que je connaissais bien sûr par les matchs. Comme je vous dis, je regarde beaucoup de matchs, donc je connaissais sa valeur, mais je n'avais pas travaillé avec lui. Donc avant de parler du joueur, je vais parler de l'homme. Je crois que c'est quelqu'un de très très intelligent, qui est au niveau d'un groupe, au niveau d'un staff, au niveau d'un coach. C'est vraiment top de travailler avec un joueur comme ça, qui est très, comment dire, très respectueux de tout le monde, très impliqué dans son travail, pour être toujours présent, être toujours là pour amener sa touche au groupe, que ce soit sur ou en dehors du terrain. C'est pour ça que je l'ai choisi en tant que capitaine. Et c'est quelqu'un de toujours mesuré, surtout quand je dis, voilà, c'est quelqu'un qui a une intelligence toujours mesurée, Après, ses qualités sur le terrain, ben, elles s'entraînent. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de confiance. Je crois que quand un joueur est en confiance, et il est ici, il se plaît dans cet environnement-là, ben, ça donne des qualités qui sont décuplées. Et comme il en a déjà beaucoup, ça fait pour lui une très, très grosse saison.
Et en plus, maintenant, en tribune, il y a un drapeau brésilien.
Oui, j'ai entendu même un chant brésilien parce que les joueurs s'amusent à le lui chanter dans le vestiaire de temps en temps.
Donc, je parlais de cette croyance qu'avait Giroud sur le joueur brésilien typique à l'époque, sachant qu'aussi les choses évoluent. Hein, donc, ce qui pouvait
Bien
être
sûr.
valable à une période peut ne plus l'être, pardon, actuellement. Mais ça pose quand même une question sur l'adaptation d'un nouveau joueur, d'un joueur étranger qui arrive en France, alors peu importe le pays, mais là on va se concentrer sur la France, et sur tout ce qu'il faut mettre en place autour de lui pour l'aider à performer. Selon votre expérience, parce que vous avez eu à Amiens, à Lorient, à Auxerre maintenant, des joueurs de très nombreuses nationalités, quels sont les points essentiels pour qu'un joueur puisse être performant, même si... On a beau parfois mettre tout en place qu'on imagine qui va aider le joueur à être performant, c'est pas une assurance tout risque.
Non, c'est pas une assurance tout risque. Après l'accompagnement, il est primordial. Un et deux, et notamment, vous avez parlé des joueurs brésiliens. La difficulté peut-être sur les joueurs brésiliens, parce que j'en ai eu aussi dans d'autres clubs ou colombiens en l'occurrence, c'est quand ils arrivent directement de leur pays en France. Les réussites que j'ai eues avec J'ai eu Avelar, le défenseur brésilien à Amiens, qui était exceptionnel, mais il avait passé 7 ans en Allemagne avant. Donc, il s'était européanisé, entre guillemets. Jouba, il a travaillé aussi au Portugal. Donc, voilà, c'est des joueurs qui ont quand même travaillé déjà en Europe avant d'arriver. Je pense que ça, c'est une donnée importante. Et dans le recrutement, je demande souvent ça aussi, qu'ils soient un peu européanisés. Ensuite, c'est l'accompagnement que va mettre le club sur ces joueurs-là. Et quand on parle d'accompagnement, ce n'est pas obligatoirement sur lui, mais c'est tout son environnement. S'il arrive, s'il est marié avec des enfants, il faut absolument que, parce que le joueur dont sa famille ne se sent pas bien parce qu'elles ne sont pas accompagnées, qu'elles ne parlent pas la langue, pour les écoles, pour les papiers, on ne se rend pas compte de ça, nous, parce qu'on vit en France. Mais je crois que c'est presque maintenant des postes à plein temps, hein, dans les clubs ou des joueurs qui doivent des gens qui doivent être là pour s'occuper de la famille du joueur, parce que le joueur il doit être consacré sur le foot. S'il arrive chez lui qu'il sent que sa famille, ses enfants, sa femme sont pas bien parce que pas bien intégrés, c'est compliqué. Donc je pense que ça c'est la principale chose à faire du côté du club.
Et vous avez raison, puisque par exemple, Troyes, depuis qu'ils sont dans le Citigroup, a une personne dédiée à ça, à aider les joueurs qui arrivent. Et d'ailleurs, eux, c'est leur stratégie, hein. Ils recrutent dans le monde entier. Et donc, c'est quelque part, ça accompagne cette logique-là. Le deuxième joueur que je voulais évoquer rapidement avec vous, c'est Paul Joly, qu'à titre personnel, j'aime beaucoup. Évidemment, on va retenir ses passes décisives, etc., etc. Mais je trouve que son travail est intéressant et. Je voulais vous titiller un petit peu, entre guillemets, parce que les rares apparitions qu'il avait fait l'année dernière, avant que vous arriviez à Auxerre, je le trouvais intéressant. Alors évidemment, avec toutes les difficultés que l'équipe avait, hein, mais globalement, on arrive aussi à isoler certains joueurs et à voir leur qualité, malgré une difficulté un peu plus collective au niveau des résultats. Et puis, il a été prêté au DFCO. Et je me suis dit, mince, mais pourquoi il le prête? Parce que moi, il me plaît beaucoup ce joueur, et je pense même qu'il aurait pu aider Auxerre sur la deuxième partie de saison. Et c'est là où... Ben moi, je ne suis pas technicien et donc il y a toutes les limites de mon rôle et d'observation. Et donc, je voulais vous en parler, enfin, je voulais qu'on en parle ensemble parce qu'aujourd'hui, on a un autre type de joueur. Je crois que vous en aviez parlé une fois en disant que le prêt lui avait fait beaucoup de bien et qu'aujourd'hui, il y avait un autre type de joueur que vous aviez. Et donc, je voulais que vous nous racontiez un petit peu ça.
Bah déjà, l'histoire de Paul, je le connais très bien puisque c'est moi qui le faisais monter au centre de formation à Amiens pour s'entraîner avec nous, avec les pros. Donc, il jouait défenseur central à ce moment-là avec les jeunes de Amiens et c'était quelqu'un que je trouvais intéressant dans ce qu'il faisait. Donc, voilà, donc c'est quelqu'un que je connaissais, mais en tant que défenseur central. Et quand je suis arrivé, j'ai observé tous les matchs, beaucoup de matchs de Ligue 2 de l'année d'avant. Et surtout, pratiquement tous les matchs de Ligue 1 qu'ils avaient joués. Et je trouvais qu'il avait besoin de franchir un palier. Et quand on arrive dans un moment comme ça, où c'est qu'on se dit, on a besoin de performer rapidement, on n'avait pas le temps de le développer. Il fallait un joueur qui nous amène qui soit du niveau et qui nous amène le plus de suite. Donc c'est une discussion que j'ai eue avec lui parce qu'en fait, s'il était resté avec nous, on savait qu'on allait prendre quelqu'un sur ce poste-là. Il aurait eu peu de temps de jeu, donc il ne se serait pas développé. Alors après, on refait plus l'histoire. C'est peut-être lui, peut-être qu'on aurait rejoué après, je ne sais pas. Mais je pensais que sur la première, c'était la bonne option. Et je ne le regrette pas cette année, même lui, en discutant avec lui, parce que ça lui a permis, même si il a joué la descente toute l'année avec Dijon, et je trouve qu'il a progressé sur beaucoup d'aspects cette année, même s'il en a encore beaucoup d'autres à développer. Mais c'est un poste qu'il joue depuis que 2 ans, 2, 3 ans. C'est un poste sur lequel il a pas de trop de repères de formation ni autre. Et on le voit sur certains positionnements, sur certaines qualités de centre. Mais voilà, c'est des axes qu'on veut travailler avec lui. Mais je pense qu'il n'était pas prêt l'année dernière pour la Ligue 1.
Ok.
Voilà.
Et
Oh,
au
mais cette
niveau.
année, c'est exactement le cas cette année comme Camara,
Ouais.
qui a amené ses qualités. Malheureusement pour lui, il a été blessé gravement. Et c'est un joueur qui allait être dans notre effectif cette année, qui allait faire quelques bouts de match. Et je préférais qu'il aille s'aguerrir et faire le maximum pour revenir plus fort l'année d'après. Je crois que c'est des choses qui. Là, il faut être capable, à un moment donné, de redescendre, même pas d'un niveau, c'est d'un niveau d'équipe, pour pouvoir reperformer plus tard.
Et ça, c'est facile à faire comprendre aux joueurs?
Ça dépend. Avec Paul, ça a été très facile.
Ouais.
Avec Camara aussi, très facile. Parce qu'il faut expliquer les choses. Voilà où tu en es. Voilà où à l'heure actuelle, ce qui risque de se passer pour toi. Ton développement, tu as besoin de ça. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent être explicables. Après, ça dépend comment on fait le prêt. C'est-à-dire, si c'est un prêt pour se débarrasser du joueur, c'est pas pareil que si c'est un prêt de développement. Et là, en l'occurrence, il faut bien expliquer les choses. Voilà, t'es à ce niveau-là, nous, on aimerait que ce soit celui-là. On pense que. Voilà, et puis après, c'est des choses qui doivent être expliquées. Après, comprises ou pas comprises, mais c'est le jeu.
J'ai encore deux petites questions. Jean-Marc Furlan expliquait dans ce podcast que dans l'évolution du football, il y avait chez les joueurs une nécessité de plus en plus prégnante d'individualiser l'aspect des relations humaines et que c'est ce qui lui prenait, lui, le plus de temps. Tous ces entretiens individuels passés par beaucoup d'explications, de discussions, terrain ou hors terrain aussi, hein, parfois, parce que les deux sont évidemment très liés dans le niveau de performance que peuvent avoir les joueurs à l'instant T. C'est quelque chose que vous avez noté, vous aussi, dans cette fameuse évolution, pour revenir au tout début du podcast, où on parlait de l'évolution en fonction du football, de votre carrière, etc. Ça en fait partie?
Je vais dire non, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça,
Ok.
en individualisant beaucoup, parce que j'ai compris assez tôt que quand on avait un vestiaire de 25 à 30 personnes, les 25 personnes, si on dit la même phrase, la même phrase ne sera pas comprise par les mêmes, de la même façon. Donc en fait, j'ai beaucoup individualisé dès que j'ai coaché. D'autant plus qu'après, on fait toujours aussi l'analyse par rapport à quand on a été joueur. Et je trouvais que, du moins les coachs que j'avais eus, il y avait très peu de. C'était un manque que j'avais trouvé en tant que coach. Je trouvais qu'on était beaucoup généraliste. On
Ouais.
parlait investir. Alors oui, on parle investir, mais comme je dis, des fois, ce qu'on dit investir n'est pas compris de la même façon par tout le monde. Donc c'est important des fois de repréciser de manière individuelle. Donc, pour moi, ça n'a pas changé parce qu'honnêtement, j'ai toujours eu cette manière de fonctionner et de manager un groupe.
Pour conclure ce podcast, si vous deviez donner trois choses qui vous font aimer votre métier d'entraîneur qui est très difficile, c'est un métier quand même où on peut avoir des satisfactions énormes. Et des désillusions tout aussi importantes. Donc, trois choses qui vous font aimer votre métier d'entraîneur et trois choses qui peuvent la rendre difficile, enfin, qui peuvent rendre ce métier difficile.
Ce qui fait aimer, c'est l'adhésion d'un staff, l'adhésion d'un club, l'adhésion d'un groupe de joueurs. C'est préparer les séances, c'est voir performer, progresser ses joueurs. Et puis voir ses joueurs heureux dans le vestiaire après un match, un public heureux après une victoire. Voilà, ça, c'est des choses qui sont des choses qui touchent vraiment. Après, ce qui me fait, voilà, c'est c'est le traitement des fois médiatique de certaines choses. C'est le côté, j'allais dire, le côté négatif et je dirais très négatif, c'est les fameux réseaux sociaux.
Ouais.
Parce que moi, c'est pas quelque chose que je regarde, mais on a tous des familles. Et souvent, quand on est attaqué après une défaite, parce qu'un coach qui perd est toujours attaqué, parce qu'il a fait les mauvais changements, parce qu'il n'a pas fait la bonne équipe, parce que si, parce que ça. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que moi, ça ne me touche pas, honnêtement, parce que je ne le lis pas. Mais ça m'est toujours apporté. Et on a tous une famille ou autre, des enfants. Donc, ça, c'est le plus difficile.
Et la dernière question, Christophe, est toujours la même pour tous mes invités au bout de l'entretien. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines?
Ouais, moi c'est quelqu'un que j'ai eu la chance, parce que c'est une chance de l'avoir eu comme joueur, c'est qui maintenant performe dans un rôle de directeur sportif au
Mais
Havre, c'est Mathieu Bonnaire.
c'est intéressant parce que j'ai failli vous en parler tout à l'heure quand on a évoqué Amiens. Je me suis dit, je vais partir sur Kakuta parce qu'il y avait eu l'interview d'Eden Hazard et ça m'avait fait penser instinctivement à ça. Mais c'est vrai que vous avez vu Mathieu à Amiens. Justement, je voulais vous demander ce que si vous aviez décelé en lui cette.
Ouais, c'est quelqu'un qui connaît le football et qui est passionné de football comme rarement j'ai vu de personne. J'étais
Ouais.
persuadé qu'il performerait dans ce poste-là. D'ailleurs, j'avais la chance de travailler 3-4 mois à commenter les matchs, à prendre une vidéo avec lui. Et j'étais pas surpris quand il réussissait. Et il a une telle connaissance du football, j'allais dire générale, une telle connaissance des joueurs. Et une telle intelligence pour déceler que pour moi, ça va devenir un grand directeur sportif.
Et que vous allez peut-être retrouver, peut-être, en tant qu'entraîneur dans les années à venir, imaginons-le, après entraîneur-joueur, après consultant-consultant, peut-être dirigeant-entraîneur, la relation Pélissier-Bodmer dans les années à venir.
Ouais, c'est sûr que quand on est coach, avoir un directeur sportif de ce niveau, ça doit être très très intéressant. Ouais.
Merci beaucoup, Christophe Pélissier, pour cet entretien, pour le temps passé en notre compagnie. Et puis, on va souhaiter à vous, à votre staff, aux joueurs et aux dirigeants de la GIA, une très belle fin de saison. Merci beaucoup, Christophe.
Merci à vous.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio, comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.